Merci, monsieur le professeur. Bonjour à tous. Je voulais juste commencer cette journée par quelques remerciements, donc j'essaierai d'être aussi rapide que sincère. Je remercie donc le professeur Antoine Compagnon, puisque c'est grâce à lui que nous avons pu organiser cette journée. Je remercie Céline Surprenant, qui a été l'artisan inlassable de cette même journée. Je remercie Yann Potin également pour avoir donné le magnifique titre de cette journée, « Mousse, ma discipline savante ». Merci à vous tous qui êtes venus, évidemment. Et merci à Claire Gutinger, la responsable du service des archives, qui m'a offert la chance de traiter le fond de Marcel Mauss à son retour de l'IMEC, où il était auparavant conservé, comme le rappelait le professeur Compagnon. Christian Prigent dit, dans son essai « Une erreur de la nature », « Je suis de ces écrivains qu'on dit difficiles, voire illisibles. Ce n'est pas être en mauvaise compagnie. Je serais bien le dernier à lui donner tort, surtout lorsque votre compagnon s'appelle Marcel Mauss. Car Mauss est difficile, à la fois par son érudition foisonnante et, pour ceux qui la connaissent, par son écriture manuscrite qui est parfois quasiment indéchiffrable. Voilà qui explique la première partie du titre de mon intervention. Mais la deuxième. En parlant de rétrospective, je ne souhaitais pas vous raconter la suite des tâches qui sont parfois fastidieuses, auxquelles l'archiviste se plie lorsqu'il doit trier, classer, décrire un ensemble documentaire. Non, il s'agissait plutôt de discuter avec vous de ce jeu d'influence réciproque entre le matériau et le travail archivistique, entre la théorie et la pratique, entre le projectif et l'effectif, bref, de l'aller-retour permanent entre les documents et leur mise en ordre. En effet, qu'est-ce que la tâche de l'archiviste, si ce n'est de faire coïncider les éléments matériels qu'il a face à lui avec l'intention proprement taxinomique du producteur des documents? Mais, comme le rappelait un de mes collègues, Goulven Lebrecq, dans un numéro de la revue Sigilla, l'obsession de l'archiviste pour le respect des fonds et de leur intégrité est tyrannique, car il est parfois impossible de connaître les intentions du producteur. D'une autre manière, Antoine Pro affirme dans ses 12 leçons sur l'histoire que la conceptualisation opère une mise en ordre du réel historique, mais une mise en ordre relative est toujours partielle, car le réel ne se laisse jamais réduire au rationnel. De la même façon, l'archiviste se heurte fréquemment à des apories qui lui imposent de créer des catégories factices pour classer les documents. Or, classer est bien un processus conceptuel de mise en ordre d'un réel matériel, pour paraphraser Antoine Pro. Écoutons Michel Foucault à ce sujet. L'archive, nous dit-il, c'est ce qui fait que toutes ces choses dites ne s'amassent pas indéfiniment dans une multitude amorphe, ne s'inscrivent pas non plus dans une linéarité sans rupture, mais qu'elles se groupent en figures distinctes, se composent les unes les autres selon des rapports multiples. On l'aura compris, le chemin que je voudrais emprunter, c'est de voir comment on passe des archives à l'archive. L'avantage de l'archiviste, c'est de pouvoir proposer un regard décentré, cher aux ethnologues, et de confronter une approche extensive des documents à la pratique intensive des chercheurs. Pour illustrer mon propos, je vous propose donc de voir comment on a pu organiser les documents selon leur logique interne et à partir d'un cas topique, comment on reconstitue un événement à partir des archives, c'est-à-dire voir comment les archives font récit. Alors, l'organisation de l'information, qui est la substance même de la pratique des archives, est ce qui permet de comprendre les ensembles documentaires en les groupant en figures distinctes, comme le disait Michel Foucault, qui sont autant de topoi, de lieux physiques et intellectuels. Et c'est là le cœur du problème, notamment dans les archives scientifiques, puisque nous faisons face pour chaque fond d'archives à un apax, un unicum qui n'a pas d'équivalent. Mais ça n'empêche pas de trouver des régularités. On retrouve de grands ensembles dans le fonds Mauss qui sont les mêmes que dans d'autres fonds scientifiques, des documents relatifs à la scolarité, des documents relatifs à la production scientifique ou encore de la correspondance, et dans le cas de Mauss, elle est particulièrement conséquente puisqu'elle représente pas moins de 10 000 éléments matériels. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le fonds Mauss depuis son retour de l'IMEC ? En fait, le changement a suivi un double mouvement, à la fois extensif et intensif. Il a subi, pour reprendre un terme durkheimien, un changement morphologique. Tout d'abord, l'organisation générale, que vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est l'ancien sommaire de l'instrument de recherche. Alors j'ai un petit souci technique, ça devrait apparaître d'ici quelques instants. Bon, quoi qu'il en soit, cette organisation a été élargie justement dans une volonté d'extensivité de la description pour la rendre à la fois plus large et plus précise. Bref. Un nombre de descriptions de niveau haut, donc des entrées générales, plus important a été élaboré, puisqu'on en compte 6 dans le premier instrument de recherche, qui sont, je vous l'ai dit puisque vous ne les avez pas là, correspondance, œuvre, dossier biographique, notes et documentation, dossier critique et sous fond Hubert. Alors que dans le nouveau, que vous voyez ici, il y en a 10, dans lequel on trouve les items scolarité, textes et publications scientifiques, enseignement, écrit politique, activités institutionnelles, documentation, documents administratifs, correspondance, la correspondance Hubert, et enfin un fonds complémentaire qui nous a été donné par la famille en 2014. Alors, cette extension de l'organisation générale masque en réalité l'intensification de la description, qui devient manifeste quand on commence à se plonger dans l'instrument de recherche. Alors, le danger, évidemment, c'est de perdre les chercheurs dans la multitude d'embranchements de l'arborescence que voici, voilà, qui est particulièrement longue. D'autre part, d'entrer dans une spécification outrancière des objets décrits. Pour pallier l'exubérance de la description, qui est réelle et j'en ai bien conscience, on dispose de plusieurs outils, notamment l'indexation, qui permet de concentrer ses recherches sur des personnes précises ou des sujets précis. Par ailleurs, il faut bien voir qu'à côté, alors là je prends une expression de Roland Barthes, à côté de cette folie taxinomique, il y a eu un effort de rassemblement de certains éléments emblématiques. Et donc on va prendre un exemple qui sera assez parlant, qui est celui de l'essai sur le don, qui est un cas idéal typique. D'abord parce que l'essai sur le don a été l'objet d'une reconstruction posthume intéressante. Je vais en donner simplement deux exemples. Le premier exemple de reconstruction posthume, c'est bien évidemment la réédition par Claude Lévi-Strauss de certains textes de Mauss dans le recueil Sociologie et Anthropologie. Lévi-Strauss y fait une longue introduction qui sonne comme un manifeste structuraliste. Sous couvert de se mettre dans la filiation de Mauss, il opère en réalité une rupture épistémologique qu'il appuie en grande partie sur une lecture critique du don. Cet usage trouve un écho dans une deuxième publication, près de 50 ans plus tard, avec la publication de L'énigme du don de Maurice Godelier en 1996. Lui se situe dans un triple héritage, l'héritage critique de Mauss, ce qu'il appelle le legs de Mauss, l'héritage critique de Lévi-Strauss, et enfin l'héritage critique de Lévi-Strauss. Face à cette reconstruction posthume, il était évidemment important de confronter une reconstitution matérielle des éléments. Et j'ai constaté que dans la précédente organisation, celle de l'IMEC, il y avait les éléments de l'essai sur le don étaient scindés en deux éléments différents. Il a donc fallu réaliser un reclassement partiel en regroupant des documents qui n'avaient pas a priori de raison d'être séparés. Dans le premier inventaire, il y avait deux cotes, donc, qui étaient MAS 25 et MAS 39. La première cote correspondait effectivement aux archives du don, mais la deuxième concernait des fragments et textes non identifiés. Il fallait donc les identifier, tout d'abord, et ensuite les remettre dans un ordre aussi cohérent que possible, en procédant selon un principe de génétique, on pourrait presque dire de phylogénèse, en recherchant des parents et des collatéraux, un peu à la manière des philologues qui établissent des stemma codicum. Alors, regardons la première pochette. Ça, c'est l'inventaire de l'essai, et la première pochette, voilà. Donc, je vous présente ce qu'on pourrait d'abord considérer comme la racine de l'arbre, même si ça ressemble plus à ces, excusez-moi pour l'envolée lyrique, plus à ces feuilles tombées au sol une fois l'automne venu. Ce sont les notes, évidemment. Et l'image des feuilles est en fait parlante, puisqu'elles ont probablement servi de substrat à l'élaboration du texte, et ce, de manière continuelle. Alors, si on déblaye un peu ces feuilles, on trouvera la véritable racine, le manuscrit, l'ancêtre commun, que voici. Alors, il commence sur une espèce de papier carbone, mais il est très vite couché sur un papier plus robuste, comme on peut le voir ici, avec des lignes imprimées et qui ajoutent une cohérence matérielle à la cohérence intellectuelle. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parler du papier n'est pas incongru. Et si j'en parle, c'est à cause de cela, les notes de bas de page, qui ont été couchées sur un papier identique et dont j'ai voulu rétablir l'ordre d'origine en les confrontant à la fois au texte manuscrit et à sa version éditée. À l'origine, c'était des paperolles qui étaient fixées au feuillet du manuscrit par des trombones, comme en témoignent de multiples traces de rouille présentes sur les deux types de documents. Le travail était facilité par la façon même d'écrire Demos. En effet, il y a peu d'écart entre la version manuscrite et la version achevée et même publiée. On sait que le sociologue parlait et écrivait avec des fulgurances et qu'il les retravaillait finalement assez peu. On a donc ici, en quelque sorte, les sœurs cadettes du manuscrit rangées et numérotées dans des pochettes de conservation. Restent les enfants à trouver. Alors, prenons l'aîné, ou celui qu'on suppose être l'aîné, qui est sous la cote 57 CDF 25.3. Le titre correspond à celui qu'on trouve sur le manuscrit, à savoir « Étude », un très long titre, « Étude générale des formes et raisons de l'échange dans les sociétés archaïques, du don et en particulier de l'obligation à rendre les présents ». Alors, ce titre laisse à penser qu'il s'intercale avec le suivant, voilà, à la cote suivante, et qui semble être le puîné et Benjamin de la fratrie, en portant un titre et un sous-titre, cette fois définitif, et c'est sur le don, formes et raisons de l'échange dans les sociétés archaïques. Mais on se rend compte que les termes du titre sont en fait légèrement différents de l'édition, puisque formes et raisons sont au pluriel. Il faut donc aller chercher dans un autre tapuscrit pour trouver le chaînon manquant avec la version éditée. Et donc ce dossier porte les corrections manuscrites de Mauss, avec cette fois la singularisation des termes du titre. Et voilà, donc là on a reconstitué la famille du don et au moins rassemblé les éléments et les membres qui nous sont parvenus, ce qui nous offre quand même la possibilité d'avoir une lecture comparative entre les différentes versions du texte. Un autre exemple de reconstitution, ce sont les documents concernant la nation, qui à l'origine concernait trois cotes différentes. Alors, grâce au travail de Marcel Fournier et de Jean Terrier, qu'on aura l'occasion d'entendre tout à l'heure, il a été possible de redonner une cohérence à un ensemble disparate de notes en suivant le travail de reconstitution du texte qu'ils avaient opéré. J'ai par ailleurs profité d'une rencontre avec Jean Terrier aux archives pour pouvoir discuter de l'organisation des éléments constitutifs de la nation. Il y avait deux raisons à cela. D'abord, parce qu'il s'agissait, les éléments de la nation constituaient un ensemble réellement organique que Mauss avait lui-même produit dans un but bien précis, celui de l'édition d'un livre. Et ensuite, parce que ce texte avait fait l'objet d'un travail, comme je viens de le dire, de reconstitution minutieux de la part des éditeurs. Et donc, les éditeurs m'offraient là un outil clé en main pour organiser les archives. Ce travail était d'autant plus important que la nation est non seulement, selon Marcel Fournier, le magnus opus de Mauss, mais c'est aussi l'opus primus d'une série d'au moins deux ouvrages. Donc, en définitive, le processus de classement qui s'opère ici, il s'opère selon une logique inversée, puisqu'on aimerait évidemment, quand on est archiviste, soumettre à l'étude des textes déjà classés et donc classer des textes déjà publiés. Bref, en comparant l'ancienne cotation et la nouvelle, on constatera qu'il y a eu un certain nombre de regroupements qui ont été effectués, contrairement à ce que pourrait laisser penser la multiplication des entrées organiques générales. Alors, l'intensification de la description se traduit aussi par un autre élément. En effet, dans son texte de présentation au Collège de France en 1930, il se présente pour la troisième fois, on y reviendra, Mauss parle à propos de ses incursions écrites dans le domaine normatif. Alors ici, on pourrait presque parler d'incursions écrites dans le domaine narratif, puisque j'ai rédigé un certain nombre de présentations contextuelles des différents groupes d'archives, et pas seulement du fond dans sa globalité. En fait, c'est une manière de fournir quelques pistes et quelques renvois vers d'autres documents, destinés notamment à renseigner un public plus large aussi que celui des spécialistes, puisque notre vocation, c'est aussi quand même de diffuser l'information à un public élargi. Si on prend par exemple la présentation de la scolarité de Mauss, on voit qu'elle présente des renvois internes vers d'autres documents du fond et des renvois externes vers de la bibliographie et d'autres sources archivistiques. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais quand on traite Mauss, on se prend forcément à rêver de l'instrument de recherche total, celui qui rassemblerait la totalité de la bibliographie, l'ensemble des archives, y compris extérieures, et dont le traitement mobiliserait la totalité du savoir archivistique ébossien. Bon, c'est impossible, évidemment. Mais tout ça pour rappeler que le traitement d'archives, pour l'archiviste, c'est quand même un fait individuel total, puisqu'il mobilise la mobilisation du corps et de l'intellect à travers le temps et l'espace, le faisant passer de la manutention à la réflexion, de la manipulation des documents à une production intellectuelle qui est elle-même influencée par l'objet manipulé. Le but, vraiment, de l'archiviste, c'est d'inventer le langage organique sous-jacent du fond. Et j'emploie le terme « inventer » dans son sens archéologique. Malgré tout, j'ai dû me résigner, puisque nous sommes, dans le cadre des archives scientifiques, face à des unicums, comme je le rappelais. Et donc cette invention du langage est d'autant plus difficile qu'un fonds comme celui de Mauss est passé par de multiples mains et a subi au moins 3 ou 4 opérations d'inventaire, d'organisation, succédant au classement original du fonds. On a modifié au gré de ces opérations les grands ensembles qui constituaient le fonds à son origine, et donc on en a modifié l'équilibre général. Et la moindre modification entraîne des changements amplifiés par l'effet de structure qui est inhérent à tout fonds d'archives, un peu comme dans le cas, alors ça c'est la longue description de scolarité, un peu comme dans le cas des mobiles de Calder. En touchant un élément, on modifie l'emplacement des autres, sauf qu'ici on ne revient jamais à l'équilibre de départ. En fin de compte, on pourrait parler de l'instrument de recherche tel que vous le trouverez en ligne, comme d'une théorie formalisée, un peu comme Bachelard parlait de théorie matérialisée en ce qui concerne les instruments scientifiques. Dans notre cas aussi, cette théorie formalisée n'est pas explicite, puisqu'elle résulte de la reconstruction d'un discours latent, et que cette reconstruction est forcément composite, puisque faite par d'autres que le producteur des archives. Alors, nous venons de voir comment les archives pouvaient s'organiser selon leur logique interne. On peut voir désormais comment elles s'insèrent dans un réseau documentaire qui les rend exploitables et leur donne sens à travers un processus de longue durée. Et le professeur Compagnon m'a beaucoup déblayé le travail, puisque je voulais parler de l'élection au collège de Marcel Mauss. Donc ça tombait très bien. Alors, quand on parle des archives Mauss, il faut comprendre le fonds Mauss lui-même, ainsi qu'une partie des archives Henri Hubert, mais aussi des archives extérieures, en commençant par le périmètre restreint du Collège de France. On entre dans une logique d'élargissement du rayon de recherche, d'ailleurs un rayon de recherche qui rappelle un peu les différents cercles de sacralité décrits par Mauss dans l'essai sur la nature et la fonction du sacrifice. Et évidemment, le fonds Mauss est ce qu'il y a de plus sacré, mais ça n'empêche pas d'aller un peu au-delà. Alors, l'intérêt de l'élection de Mauss au collège est double. D'abord, l'intérêt historique, puisqu'elle met en lumière un triple enjeu, un enjeu scientifique, politique et même politico-religieux, et enfin un intérêt social. Ensuite, un intérêt documentaire qui est lié à la variété des sources à mobiliser, puisqu'on va trouver 3 types d'archives. Des archives administratives, comme les comptes rendus et les procès-verbaux des assemblées, des archives scientifiques, comme la leçon inaugurale, et des archives personnelles, voire hybrides, comme la correspondance. Alors, l'élection de Mauss et plus globalement l'entrée de la sociologie au collège est un processus de légitimation et d'institutionnalisation qui est long de plus d'un quart de siècle et dont les prémices ont lieu d'abord à la fin du XIXe siècle. Et donc, à cette... voilà. Alors, fin du XIXe siècle, donc la chaire de philosophie sociale voit s'affronter Émile Durkheim et Jean Isoulet, qui est finalement élu à la chaire. Mais en 1904, la mort de Gabriel Tarde, qui occupait la chaire de philosophie moderne, relance la compétition. En effet, son successeur supposé, Paul Tannery, meurt en 1904. Bergson passe de la chaire de philosophie grecque et latine à celle de Tarde. Il doit donc y avoir un changement de la chaire de Bergson. Donc la question, en quoi ? Alors, pour les changements de chaire, les dossiers et les registres des assemblées constituent la documentation principale. On va donc consulter le registre de l'Assemblée du 27 novembre 1904. Alors, vous m'excuserez, le diapo a quelques petits soucis, il marchait tout à l'heure. Donc, quand vous allez voir les registres d'Assemblée, rassurez-vous, il y a des choses écrites dessus. Hein. même en ligne, ça marche sans problème. Donc, dans ce registre, Réville est pour le maintien, on apprend que Réville est pour le maintien de la chaire de philosophie grecque et latine, Ave est pour la transformation en chaire d'histoire, Janet, lui, fait un plaidoyer pour la sociologie et son ancien camarade de l'ENS, Durkheim, et enfin, Kania, lui, milite pour la transformation en chaire d'antiquité nationale. On assiste à un scrutin qui est parfaitement égalitaire entre trois propositions, et cette égalité traduit entre autres les réticences face à la sociologie durkheimienne, comme on l'a dit, et conduit au renvoi de la création de la chaire à la prochaine assemblée. Ce qui nous amène à consulter, je sais pas, plus de chance, voilà. Bon, ce qui nous amène à consulter le registre suivant, en date du 15 janvier 1905, Bergson appuie alors la sociologie, mais n'empêche pas la nette victoire des antiquités nationales en faveur de Camille Julian. Le clan tabou totem, pour reprendre l'expression de Bouglé, va donc opérer un changement de stratégie. Le contexte est défavorable à Durkheim, mais il change en 1906 avec l'élection de Charles Fossé à la chaire d'assyriologie et d'Antoine Meillet à celle de grammaire comparée. Tous deux sont des collaborateurs de l'année sociologique et soutiennent Mauss pour la succession d'Albert Réville à la chaire d'histoire des religions en 1907. L'avantage, c'est que la chaire existe déjà et que Mauss tient son cours de religion des peuples non civilisés à l'école pratique. Parmi les candidats, trois retiennent l'attention. Jean Réville, qui se présente à la succession de son père, Georges Foucard, dont le dossier est défendu par son père, Paul, qui tient alors la chaire d'épigraphie et antiquité grecque, et enfin Mauss, qui est soutenu par Meillet, Fossé, et surtout Sylvain Lévy, son ancien professeur à l'école pratique. Là, coup de tonnerre, Mauss se présente en seconde ligne, mais il obtient un nombre important de voix pour la première, alors que les pressentis sont Réville et Foucard. Oui, Foucard, dont le père mène la campagne, et qui s'attaque à mots couverts pour l'instant à Mauss et à la concurrence. Et donc, comme le montre... on a la présentation des titres de Mauss. Donc, pour conclure, Réville emporte la victoire, mais il meurt en 1908, ce qui va relancer la succession de manière encore plus vive. Les deux principaux concurrents de Mauss sont alors encore Foucard, toujours soutenu par son père, et Loisy, dont la candidature donne une tournure politico-religieuse à l'élection. Puisqu'il faut rappeler que celui-ci, donc Loisy, figure de proue d'un catholicisme moderniste, a été excommunié le 7 mars 1908 et a donc perdu sa prêtrise. La dimension politique de la candidature est manifeste. Et elle se retrouve beaucoup dans les correspondances, d'ailleurs. Mauss envoie donc une nouvelle lettre de candidature. Et cette fois-ci, c'est à Levasseur, à l'administrateur. Et cette fois-ci, ses adversaires ont une conscience aiguë du risque qu'ils représentent, comme en témoigne la lettre de Foucard, qui, cette fois-ci, est beaucoup moins subtile que lors de la première élection. Il dit, je cite, « Sylvain Lévy est le patron de Mauss, son élève. Il a comme titre quatre articles, écrits en collaboration et qu'il a signés en second. On ne s'est jamais expliqué sur la part réelle qu'il y a prise. » Mauss, bon, lui, est beau joueur, hein, il écrit même à la concurrence des lettres, ma foi, fort sympathiques. Les titres de Foucard à l'élection sont présentés non pas par son père, mais par Bablon, tandis que les titres de Mauss sont présentés, encore une fois, par Lévy. L'élection est tendue, comme le confirme la délibération du 31 janvier 1909, et le compte-rendu, qui contient la magnifique feuille de décompte que voici, vous voyez que l'élection est très tendue, on a pas moins de 5 tours pour déterminer la candidature de première ligne, 3 tours pour la seconde ligne. Et Mauss attend évidemment plusieurs soutiens, ceux de Meillet, Fossé, Viroubov, comme nous en informe d'ailleurs une lettre que Durkheim envoie à son neveu le 24 janvier. Et là encore, on assiste à un double coup de tonnerre, c'est-à-dire que, premièrement, Loisy est élu, et deuxièmement, Mauss n'est même pas qualifié pour le second tour, puisque c'est finalement Jules Toutain qui lui a ravi la place. L'élection de Loisy déclenche évidemment les foudres de la presse d'extrême droite, comme l'Action française qui titre les Tartarins républicains à l'œuvre, et le Courrier de l'Aude avec un article de Léon Daudet, un article intitulé « Les maîtres d'erreur ». Si on le lit, il est d'ailleurs particulièrement atroce. Quant à Mauss, évidemment, c'est la consternation chez ses amis, comme l'illustre notamment une lettre d'Abel Ray, dans laquelle il confie à Mauss qu'il n'est pas le seul à être peiné. Et à partir de là, la question de l'élection de Mauss au collège disparaît pendant 20 ans, malgré un timide essai de proposition par Loisy de création d'une chaire d'ethnographie qu'on retrouve dans l'Assemblée du 15 mars 1925. Et c'est la mort d'Isoulé, qui avait lui-même emporté la chaire face à Durkheim 33 ans plus tôt, qui relance la course dans un contexte fortement concurrentiel, puisque trois chaires sont présentées en remplacement à l'Assemblée du 6 novembre 1929. Et par ailleurs, l'intitulé de la chaire est un objet actif de la stratégie. Rappelons que nous sommes à un moment de définition de ce que sont l'anthropologie, l'ethnologie, l'ethnographie, et de la place de la sociologie entre toutes ces disciplines, comme le montre la lettre de Mauss à Meillet avant l'élection. Il y confesse qu'il ne voit rien de mieux que la sociologie comme titre, avant de préciser que Breuil lui a proposé ethnologie, un terme qu'il, je cite Mauss, qu'il n'aime pas. Encore une fois, on assiste à une égalité parfaite, cette fois avec la chaire de philosophie du Moyen-Âge, pour laquelle était pressenti Étienne Gilson, d'où un report du vote pour l'Assemblée du 15 juin 1930. Mauss, par ailleurs, est défendu par Loisy en coulisses, Loisy contre qui il avait perdu plusieurs décennies plus tôt, son ancien adversaire, notamment auprès de Bédier, comme en témoigne. Voilà, c'est une lettre à Bédier, qui était l'administrateur du collège à cette époque. Encore une fois, alors je ne rentre pas dans le détail des correspondances, mais on a une vraie stratégie d'ensemble qui se met en place. Et vote final et définitif voyant l'élection de Mauss le 23 novembre 1930, la sociologie entre enfin au Collège de France. Alors, en guise de conclusion, posons une question simple. Pourquoi continuer à étudier Mauss et plus particulièrement ses archives ? Non pas parce que nous aurions le culte du grand homme, même si Mauss en est un indéniablement. Au contraire, c'est parce que Mauss ne représente pas que lui qu'il est intéressant. En effet, il est à la fois moteur et symptôme du renversement épistémologique à l'œuvre dans les sciences humaines du 1er XXe siècle et qui aboutit à une révolution sociologique, pour reprendre l'expression de Marc Joly. Un renversement de paradigme à cette époque s'opère dans un même mouvement, dans la philosophie et dans la psychologie, grâce notamment à l'action de la sociologie. Nous sommes face à ce que Marc Joly toujours appelle un changement de régime conceptuel. L'enjeu des archives, quant à lui, est de faire une reconstitution globale plutôt qu'intégrale à partir de ce que j'appelle des dividus, un terme que j'emprunte à l'écrivain japonais Keiichiro Hirano plutôt qu'à Deleuze. Hirano définit en effet le dividu comme doté de plusieurs personnalités, toutes vraies mais différentes selon les concepts. On obtient ainsi la recomposition de Mauss comme homme total, selon l'expression de Bruno Carsanti. Mais Bruno Carsanti, lui, délimite son investigation au Mauss intellectuel, alors que les archives permettent de le restituer dans ses dimensions sociologiques, psychologiques, politiques, familiales et même biologiques. Or, que nous permettent les archives, sinon, pour citer Wittgenstein, un groupement de matériaux factuels seuls dans une présentation synoptique, et Wittgenstein de poursuivre, c'est cette présentation synoptique qui nous permet de comprendre, c'est-à-dire de voir précisément les corrélations, soit, pour répéter Foucault, voir comment les choses se groupent en figures distinctes, se composent les unes les autres, selon des rapports multiples. Et pour conclure, les archives, je voulais juste dire que les archives sont un élément clé de la compréhension de la genèse d'une pensée, qu'elle soit individuelle ou collective, et c'est qu'en définitive, et d'une façon très différente, les archives et les sciences humaines s'articulent dans un même but, celui de restituer un fragment de la réalité aussi complètement que possible. Et pour vous remercier de votre attention, je vous gratifie, j'espère que ça va marcher, de cette magnifique photo de Mauss que l'on tire de sa carte du club alpin, qui représente bien Mauss quand on le suit dans ses archives, à la fois génial et très proche de nous, avec beaucoup d'humour. Je vous remercie.
Merci de nous avoir montré tout ce qu'on peut trouver dans ces les archives MOS et les archives du Collège de France, c'est l'occasion de rappeler que ce que vous n'avez pas pu voir, là, les procès-verbaux, il vous suffit d'aller sur le site du Collège de France, Salamandre, où tous les registres des procès-verbaux sont accessibles en ligne. Vous n'avez pas trop perdu, vous pouvez aller vérifier tous ces documents. Et je rappelle à cette occasion que nous avons aussi mis en ligne, au début de l'année 2017, 700 rapports de présentation. Ces rapports de présentation qui sont donc lus aux assemblées des professeurs et qui sont soit suivis d'une élection positive, soit rejetés, comme vous l'avez vu, à travers ces pages de petites croix. Donc ces rapports de présentation, c'est ça qui nous permet d'essayer de suivre une stratégie scientifique, mais aussi une tactique politique, comme vous l'avez rappelé, puisqu'il y a beaucoup de considérations. Je vois que vous avez prévu que le prochain exposé soit à 10 heures, donc ça veut dire qu'on a le temps d'une petite discussion après chaque exposé, et plutôt qu'à la fin de la séance. Est-ce qu'il y a...